Libre ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 29 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, 6 soldats ont été tués hier dans la province de la Kampienga, dans l'est du pays.
En Guinée, un jeune a été tué hier dans des heurts entre protestataires et forces de l'ordre.
Fin aujourd'hui de la visite de travail du président béninois Patrice Talon à Washington.
Procès en destitution du président Donald Trump, ses avocats demandent un acquittement rapide malgré les récentes révélations de son ancien conseiller John Bolton.
Les Palestiniens rejettent avec colère le plan de paix du président Trump pour le Moyen-Orient, alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou jubile.
Le nombre d'infections par le nouveau virus en Chine dépasse celui du SARS dans le pays en 2002 et 2003.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 6 soldats ont été tués hier dans une embuscade entre Madjohari et Pama dans la province de la Kampienga, dans l'est du pays. Le point avec Bagassikoura.
Selon une source sécuritaire, une patrouille du détachement militaire de Madjohari a sauté sur un engin explosif sur la route menant à Pama. L'explosion a été suivie de tirs. 6 soldats ont perdu la vie et plusieurs sont portés disparus, selon une autre source sécuritaire qui souligne que des renforts terrestres et aériens ont été envoyés pour traquer les assaillants et retrouver les militaires portés disparus. Cette embuscade survient après une autre attaque samedi à Silgagi, dans la province du Soum, dans le nord. Le bilan pourrait atteindre plusieurs dizaines de personnes tuées. Par ailleurs, un détachement de l'armée a été visé par une attaque à l'engin explosif artisanal lundi dans la zone de Touéni vers la frontière du Mali, faisant des blessés. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes qui ont fait environ 800 morts et près de 600 000 déplacés.
Burkina toujours, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général Gibril Bassolé, a été évacué mardi soir en France pour des raisons sanitaires, ont indiqué ses proches à l'AFP. Le général Bassolé, qui a été condamné à 10 ans pour son implication dans le coup d'État manqué de 2015, a finalement bénéficié d'une autorisation de sortie du parquet militaire pour aller se faire soigner. Il était l'un des piliers du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé en octobre 2014 par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir.
Le président du Bénin, Patrice Talon, a poursuivi hier une visite de travail entamée lundi ici à Washington. Il a eu des rencontres notamment avec des responsables du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et du gouvernement américain, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo. La lutte contre le terrorisme était entre autres questions au menu des échanges avec le chef de la diplomatie américaine. Au micro d'Irénée Herman Umbo, le président Patrice Talon.
Bien évidemment, les États-Unis sont engagés un peu partout dans le monde dans la lutte contre le terrorisme et sont disposés à apporter leur appui, leur contribution, leur aide à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine, notamment le Sahel jusqu'à la zone ouest-africaine. Et cela est satisfaisant. La réalité de la menace est effective. Et c'est pour ça que c'est une action commune qu'il faut entreprendre. Et les pays côtiers ne sont pas à l'abri d'une contagion. La preuve, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose d'incident au nord du Bénin il y a quelque temps. Mais à titre particulier, nous faisons les efforts qu'il faut pour prévenir ce genre de choses. Nous déployons nos hommes, le renseignement, les forces de sécurité, la défense. Nous avons la chance d'être un petit territoire. Donc ces frontières ne sont pas étendues au point de dépasser nos moyens. Donc nous assurons aujourd'hui assez efficacement la ceinture nécessaire pour prévenir toute incursion.
Le président du Bénin, Patrice Talon, que nous entendrons plus longuement en seconde partie de cette édition.
En Guinée, un jeune homme a été tué hier lors des heurts entre manifestants et forces de sécurité à Conakry, a-t-on appris auprès de sa famille, de témoins et d'une source médicale. La gendarmerie et la police, sollicitées par l'AFP, n'ont ni confirmé ni infirmé la mort du jeune homme. L'opposition organise depuis la mi-octobre des manifestations parfois durement réprimée, pour s'opposer au projet qu'elle prête au président Alpha Condé, qui est âgé de 81 ans, de briguer au troisième mandat à la fin de l'année. L'actuelle constitution en limite le nombre à 2. Nous reviendrons sur la situation en Guinée avec notre correspondant Zakaria Camara en seconde partie de cette édition.
Au Gabon, outre les deux personnes mortes lynchées par la foule, une femme a été tuée par une balle perdue. Dans les incidents qui ont secoué vendredi Libreville, la capitale, d'après des rumeurs d'enlèvement d'enfants. C'est ce qu'a déclaré hier le procureur de Libreville. Entre jeudi soir et samedi matin, plusieurs quartiers populaires de cette ville se sont enflammés. Les habitants y avaient érigé des barricades et procédé à la fouille des véhicules à la recherche d'éventuels enfants kidnappés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, les avocats du président Donald Trump ont bouclé mardi leur plaidoirie à son procès en destitution, en réclamant son acquittement. Ils se sont également employés à minimiser les accusations embarrassantes de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le Sénat ne peut pas permettre la destitution du président, a déclaré l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, devant la Chambre haute du Congrès, où est jugé le président Donald Trump depuis une semaine. À l'issue des plaidoiries des avocats, le procès va désormais entrer dans une nouvelle phase, pendant laquelle les 100 sénateurs pourront poser des questions à la défense comme aux 7 représentants démocrates qui forment l'équipe d'accusation. La bombe lancée par John Bolton, qui assure dans un livre à paraître que Donald Trump a bien conditionné le maintien de l'aide militaire à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête visant des responsables démocrates dont l'ancien vice-président Joe Biden, n'est pas un délit susceptible d'entraîner la révocation du chef de la Maison-Blanche, ont estimé les avocats. La question de savoir si John Bolton témoignera devant le Sénat, comme le réclament les démocrates, pourrait être examinée vendredi ou samedi. Les sénateurs républicains ont jusqu'ici empêché toute audition de témoins ou présentation des documents voulus par les démocrates lors du procès, mais les révélations de l'ancien conseiller du président Trump ont fait bouger les lignes.
Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rejeté en bloc le plan de paix pour le Proche-Orient, fondé sur une solution à deux États, dévoilée hier par le président américain Donald Trump. Des détails avec Eric Manirakidza.
Ce plan ne passera pas, a vite réagi le président palestinien Mahmoud Abbas. Il a fait cette déclaration à Ramallah au terme d'une réunion des factions palestiniennes, incluant les islamistes du Hamas, devant décider de la politique à suivre après l'annonce du projet américain à Washington. La Turquie a jugé que son plan était mort-né, le qualifiant de plan d'occupation voué à détruire tout espoir d'une solution à deux États. La Jordanie a estimé que l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 est resté la seule voie pour une paix globale et durable. L'Iran a jugé qu'il était voué à l'échec. L'Allemagne précise qu'une solution acceptable par les deux parties peut conduire à une paix durable. L'Union européenne a réaffirmé son engagement ferme en faveur d'une solution négociée viable à deux États. L'Égypte a appelé les Israéliens et les Palestiniens à un examen attentif et approfondi de son plan de paix américain. L'ONU s'en tient aux résolutions onusiennes et aux accords bilatéraux sur la création de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et sécurité dans des frontières reconnues sur la base des lignes définies en 1967, a déclaré hier son porte-parole.
Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus en Chine continentale a dépassé celui de l'épidémie de SARS dans le pays en 2002-2003, selon les chiffres officiels publiés hier. Publié aujourd'hui même, les autorités sanitaires chinoises ont dénombré mercredi 5974 cas confirmés de contamination, soit plus de 1400 de plus que la veille, tandis que le bilan s'aggravait à 132 décès. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, également un coronavirus, avait pour sa part infecté 5327 personnes en Chine continentale et provoqué 349 morts dans le pays. À l'échelle mondiale, selon l'OMS, l'épidémie de SRAS avait fait 774 morts sur 8096 cas en 2002-2003 avant d'être jugulée.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Echo, Nani Talani.
La plateforme angolaise pour le transport individuel Cleva a investi 20 millions d'euros dans l'achat de 1000 voitures électriques et souhaite s'orienter cette année vers d'autres solutions de mobilité urbaine telles que les motos. Les 1000 véhicules produits par la Chine sont destinés à la capitale Luanda, où environ 300 circulent déjà, mais l'objectif est d'atteindre d'autres villes comme Huambo, Benguela et Lubango. Les plans de Cleva incluent également une expansion vers d'autres pays d'Afrique tels que le Mozambique, la Namibie et la RDC. Les États de la communauté de développement de l'Afrique australe veulent promouvoir une gestion efficace des terres pour une croissance économique inclusive, l'industrialisation et la transformation socio-économique afin de créer des opportunités pour tous les citoyens. Environ 60% de la population du continent vivent en milieu rural et tirent leurs revenus directement de la production agricole et animale, d'où la nécessité de débloquer la terre en tant qu'actif transformateur. Pour terminer, le déficit de l'État fédéral américain va se creuser de 160 milliards de dollars de plus que prévu sur la période 2020-2029 pour atteindre un total cumulé de 12 367 milliards de dollars, ont indiqué les services du budget du Congrès. Pour l'exercice fiscal 2020, le trou budgétaire sera supérieur de quelque 8 milliards de dollars par rapport aux prévisions d'août dernier. Le déficit représentera 4,6% du PIB cette année.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début réussi pour la Guinée équatoriale à la CAN Futsal au Maroc.
Oui, la Guinée équatoriale est la première équipe victorieuse de cette sixième édition. Le Nsalang s'est imposé hier face à l'île Maurice 4-2. Les deux pays étaient à leur première participation à la compétition, mais visiblement la Guinée équatoriale est plus préparée que son adversaire. Le Nsalang prend ici provisoirement la tête du groupe A.
Sekou Gassama rejoindra Wydad cet été.
Le club espagnol a officialisé la signature de l'avant-centre sénégalais, désormais lié à Wydad jusqu'en juin 2024. Sekou Gassama, 24 ans, quitte Almeria. Classé deuxième en 2-2 espagnol, il est toutefois prêté jusqu'à la fin de la saison à Fierlambrada, toujours en deuxième division. Sur le continent, on note des départs et des arrivées au tout-puissant Mazembe. Arrivé à Lubumbashi en 2014, Nathan Sinkala, milieu de terrain zambien, a dit adieu au club de Congolais. A l'inverse, l'attaquant tanzanien Thomas Oulimwengu, 26 ans, et le jeune malien Philippe Traoré ont rejoint les Corbeaux. Le premier connaît déjà l'équipe pour y avoir joué entre 2011 et 2016. Il a signé un contrat de 2 ans avec le tout-puissant Mazembe. Pour sa part, 19 ans, Philippe Traoré est auteur de 7 buts en 9 matchs avec le club olympique de Bamako. Le jeune attaquant a paraffé un bail de 5 saisons avec le tout-puissant Mazembe.
Hans Jaber, stoppé en quart de finale de l'Open d'Australie.
Oui, la Tunisienne a été battue par l'Américaine Sofia Kenin, 6-4-6-4 en 8e de finale. Hans Jaber a disposé de la Chinoise Qian Wang en 2-7, 7-6-6-1. Un succès qui lui a permis de devenir la première Tunisienne et la première joueuse arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi de Grand Chelem. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Philadelphie et Golden State Warriors 115-104, Toronto et Atlanta 130-114, Milwaukee et Washington, tenez-vous bien, 151-131, Phoenix et Dallas surprise 133-104. Enfin, le match entre LA Lakers et LA Clippers a été reporté en raison de la mort de Kobe Bryant.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, tension en Gambie. Plus de 130 personnes ont été interpellées lors d'affrontements entre forces de l'ordre et militants du mouvement Trias Jotna qui demandent que le président Adama Barrow se conforme à sa promesse électorale de quitter le pouvoir après 3 ans. Les autorités ont interdit le mouvement et fermé 2 radios privées. Des organisations de défense des droits humains dénoncent cette situation qui survient 3 ans après le départ de l'ex-président Yahya Jammeh, dont les partisans réclament le retour au pays. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Fin de la visite de travail à Washington du président du Bénin, Patrice Talon. Il va quitter aujourd'hui la capitale américaine pour Cotonou. Hier, dans une interview exclusive à Irénée Herman Ungbo et à VOA Afrique, M. Talon a insisté sur la nécessité de la mise en œuvre des réformes en cours au Bénin, réformes désapprouvées par certains de ses concitoyens.
On ne peut pas se plaindre que nous manquons de tout et ne rien faire pour satisfaire ces besoins-là dans le temps. Le rôle d'un gouvernant, c'est faire les arbitrages nécessaires pour imposer la rigueur et les efforts qu'il faut à tout le monde afin qu'ensemble, nous fassions face à nos difficultés ou résoudre nos problèmes et investir là où nous avons des besoins.
Monsieur le Président, avez-vous l'impression d'être mal compris par vos concitoyens dans vos réformes?
Cela est possible. Mon rôle est de faire ce qu'il faut, mais en même temps d'expliquer pour avoir l'adhésion, la compréhension des uns des autres. Mais je n'ai pas à attendre que tout le monde soit d'accord, m'applaudisse avant d'avancer. Ce qui est bien, mais qui scientifiquement, objectivement est nécessaire, il faut le mettre en œuvre, même si c'est difficile, mais il faut avoir la capacité, mais je veux dire même si un peu le talent, de l'expliquer, de sensibiliser, afin que l'effort ne soit pas trop difficile et qu'il y ait une adhésion à cet effort-là.
Vous avez déjà convoqué le corps électoral pour les élections communales. Les Béninois peuvent-ils espérer des élections inclusives?
Mais les élections auront lieu et elles seront inclusives. Et elles sont inclusives. Il n'y a aucun test qui interdit à qui que ce soit d'aller aux élections. Et d'ailleurs, je viens de vous le dire, nous avons les conditions ont été assouplies. Donc théoriquement, tout le monde devrait pouvoir participer aux élections, mais il faut avoir la volonté. On ne peut pas obliger les gens à participer à une compétition s'ils n'ont pas envie. Mais j'espère bien que l'ensemble de la classe politique sera de la compétition.
Pour terminer, Monsieur le Président, 2021 se profile à l'horizon. Serez-vous candidat ou tiendrez-vous parole de ne faire qu'un seul mandat?
J'ai répondu à cette question déjà à plusieurs reprises. 2021 loin, je suis dans l'action et avec beaucoup de volonté, d'énergie, de passion. C'est vrai que c'est dur, mais mon souhait est de faire des résultats. Ce qui se passera en 2021 dépend de tellement de paramètres. Et vous savez, si j'avais demandé que le Bénin adopte un mandat unique, c'est justement à cause de ça. Que chaque fois, on n'ait pas le regard rivé sur la prochaine élection, la prochaine séance présidentielle. Parce que cette attitude ne permet pas de travailler. Et je constate chaque fois, et vous me donnez raison, que cette question montre tout le côté pervers de ces échéances politiques qui empêchent les chefs d'État, les présidents de la République, de travailler avec volonté, détermination et amener leurs concitoyens à faire les efforts qu'il faut pour ne pas craindre de ne pas être réélu. Je n'ai pas cette préoccupation, ce n'est pas mon souci.
Patrice Talon, président du Bénin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Guinée, alors que la campagne pour les législatives du 16 février se poursuit, les leaders religieux demandent au président Alpha Condé de reporter ses élections. Mardi et mercredi, le Front national pour la défense de la Constitution a appelé à de nouvelles manifestations contre le projet de nouvelle Constitution voulu par le président guinéen. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Dans une déclaration, le Front national pour la défense de la Constitution parle de morts et de 4 blessés par balle. Les opposants au projet de nouvelle Constitution se sont réjouis de la poursuite des manifestations dans 23 villes et à Conakry. Réunis à Nzérékouri dans le sud du pays, les prêtres catholiques ont demandé au chef de l'État de respecter le principe de l'alternance. Dans la capitale guinéenne, les avis sont partagés sur le changement constitutionnel.
J'ai bien écouté ici la déclaration des prêtres de la forêt de Nzérékouri. C'est normal aujourd'hui que le président définisse sa position sur la question du troisième mandat, parce que la crise se trouve là-bas. On ne sait pas s'il va se présenter pour un troisième mandat, on ne sait pas si son objectif c'est de s'en seulement la constitution et laisse le pouvoir à une autre personne. Un seul mot peut suffire aujourd'hui d'éteindre sur tous les feux qui brûlent le pays. Quand le président dit aujourd'hui sa position clairement devant la population, oui, écoutez, moi, ma position aujourd'hui, c'est je vais seulement modifier ici la constitution, mais je ne vais pas me présenter. Non.
Il n'a jamais dit qu'il fera un troisième mandat. Il change la constitution pour tous les Guinéens, pas pour le président de la République. Le changement de la constitution, c'est pour tous les Guinéens. Ils n'ont qu'à accepter d'aller aux urnes.
Dans un pays de démocratie, la voie la plus sûre, c'est la voie des urnes. Donc, quand on n'est pas d'accord pour une nouvelle constitution, il faut aller voter contre la nouvelle constitution.
En plus de manifester contre tout changement constitutionnel, l'opposition guinéenne qui s'est retirée du processus électoral se dit décidée à empêcher l'organisation des élections législatives du 16 février prochain. Lundi, les leaders religieux, musulmans et chrétiens ont demandé au président Condé de repousser les élections législatives à une date ultérieure. Le report ou pas de l'élection des députés, un autre sujet qui fait débat dans la capitale.
La politique et la religion, c'est des ceux qui sont diamétralement opposés. Du côté social, s'ils ont fait une telle déclaration, on peut le comprendre dans ce sens. C'est une question purement politique.
Pour moi, c'est une solution de reporter encore les élections législatives. Parce que vu aujourd'hui la tension, ce serait une manière encore d'appeler les opposants à venir ici à table à discuter à nouveau. L'opposition n'est pas totalement opposée ici à un dialogue. Mais c'est la situation qui impose.
Les partis politiques qui avaient boudé le processus électoral avaient saisi la Cour constitutionnelle pour un report, l'adoption d'un fichier électoral qui reflète le corps électoral, entre autres. Dans un arrêt ce mardi, la Cour a indiqué que les requérants n'ont pas qualité. En clair, ces partis politiques ne sont pas concernés par le processus électoral. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Mali, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a accordé la liberté provisoire au général Amadou Aya Sanogo et à des co-accusés dans le dossier d'assassinat et de complicité d'assassinat de 21 bérets rouges. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Dans la ville de Gao, l'information concernant la liberté provisoire accordée à l'ancien chef de la junte de 2012 au Mali est timidement évoquée par les jeunes de la cité des Askia.
Je pense que c'est une bonne chose si ça peut amener la paix, la cohésion sociale, la quiétude au sein de Bamako et du Mali. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un procès qui a trop tardé. On dit demain c'est le procès, un mois le procès, l'année prochaine le procès, mais le procès ne va jamais se tenir. Donc mieux vaut le libérer. Il a une famille quand même et il a des droits comme tous les Maliens. Je pense que c'est une bonne chose, mais c'est le mal qui lui. Après sa libération, qu'il sache ce qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'il mette du sable aussi dans le couscous des Maliens.
En tournée avec le premier ministre malien dans la région de Gao, Maître Aruna Touré du pool des avocats de Amadou Aya Sanogo se réjouit de la décision de la chambre d'accusation.
C'est d'abord un sentiment de satisfaction. J'ai le sentiment qu'une attente que nous avons eue pendant 4 ans a été comblée, c'est-à-dire le respect de la loi, le respect du droit. Notre client, le général Sanogo, a été libéré aujourd'hui. Il a eu la liberté provisoire. Il méritait un droit de l'avoir il y a 4 ans parce que la détention provisoire conformément à la loi ne doit pas en cette matière dépasser les 3 ans. Nous sommes satisfaits. Il est certainement satisfait. Sa famille également. Et nous attendons la suite.
Pour d'autres personnes, Amadou Aya Sanogo et co-accusés seront jugés malgré cette liberté provisoire. Aboubakar Yoro Maïga.
Pour nous, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts dans le pays. Quelqu'un à travers lequel on a eu beaucoup de problèmes. Des problèmes économiques. Ou de problèmes aussi sur le plan sécuritaire. Mais c'est une décision de justice et les juges sont le seul maître de leur décision. On n'a rien dit d'abord que c'est une liberté d'abord provisoire, pas une liberté totale. En tous les cas, ce jugement sera fait. Et je sais que lors de ce jugement, il va y avoir beaucoup de révélations qui vont permettre aux Maliens de comprendre beaucoup de choses qui ont passé de 2012 à nos jours.
En attendant ce jugement, les avocats de Sanogo saluent la décision de la chambre d'accusation car leur client vient de passer 7 ans en prison sans être jugé. Maître Tchessolo Konare.
Peut-être il y a une loi en vue à venir qui demande l'amnistie de tous les faits de 2012. Je ne sais pas si nous allons bénéficier de cela, mais dans tous les cas de figure, 7 ans de détention, la chambre d'accusation vient de faire droit au droit, c'est-à-dire droit à la liberté. Parce que conformément aux dispositions de l'article 135 de notre code de procédure pénale, en aucun cas pas, le délai de détention provisoire ne peut dépasser les 3 ans. Ça fait 7 ans que nous sommes en prison.
La prise en charge des victimes sera faite sur la base d'une loi, nous explique Maître Haruna Touré.
Il y a également une loi d'indemnisation qui a été prise. Ça, c'est encore plus vieux que la loi d'amnistie. Et nous n'avons eu de cesse de dire à l'État du Mali de faire face à cette obligation d'indemnisation en faveur des victimes. Et nous partageons le sentiment que ces victimes-là méritaient également d'être dédommagées. C'est la loi. Donc il faut que l'équilibre soit maintenu, les victimes soient indemnisées et que les personnes qui ont été poursuivies à tort retrouvent leur liberté.
Certains parents des victimes nous ont fait savoir qu'ils ont été entrepris par le gouvernement malien en vue d'être dédommagés. Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Une dizaine de villes en quarantaine, des dizaines de millions de personnes bloquées, la Chine emploie les grands moyens pour tenter d'enrayer la nouvelle épidémie de coronavirus, mais ces mesures sans précédent pourraient s'avérer insuffisantes selon des experts, d'autant plus que l'épidémie continue de se répandre dans le monde. Dans le cercle des étudiants étrangers, la peur s'installe petit à petit. Pour en savoir plus, Arzuma Compaoré a joint Daniel Zogona, un étudiant de la Huajian, une agricultural university dans la ville de Wuhan.
Bon, les cours sont suspendus. Bon, je n'ai pas dit suspendus puisque c'était déjà la période de congé par rapport au nouvel an chinois. Donc, pour le nouvel an chinois, les cours ont été arrêtés depuis le 11 janvier et pas plus tard qu'hier, une note officielle est sortie pour dire que la reprise sera reportée. La reprise devait être prévue pour le 9 février. La menace sera reportée à une date ultérieure. Il faut dire que Wuhan est une ville assez grande qui se trouve au centre de la Chine, qui comporte environ 11 millions d'habitants. Donc, généralement, le trafic, bon, il peut dire un peu partout où il y a du monde.
Comment les habitants de Wuhan vaquent-ils à leur occupation depuis la mise en quarantaine?
Je peux dire, en cette période, c'est difficile de rencontrer qui que ce soit. Même les Chinois même ne sortent pas. Voilà, étant donné que nous avons reçu des consignes de ne pas sortir, puisque tout est stoppé en fait. La ville a été mise sous quarantaine depuis jeudi passé. Donc, ça fait que les transports en commun sont arrêtés, les boutiques sont fermées, les gens ne sortent plus. À moins qu'il y ait des endroits d'approvisionnement tels que certains supermarchés qui sont ouverts où il y a un check-in. Quand vous arrivez, on vous scanne pour prendre la température corporelle et aussi vérifier que vous portez des masques pour des mesures de sécurité. Donc ça fait qu'actuellement, on n'arrive même pas à se frotter aux gens parce qu'on ne sort pas. Et chacun est dans son coin, on suit les informations également par le biais des médias, la presse. Et également au niveau de notre université, il y a le Collège international qui coordonne avec les étudiants afin de nous apporter des informations sur la situation actuelle.
Et dans votre université, comment est le moral des étudiants internationaux?
Je peux dire qu'il y a la peur vu qu'on entend dans les médias jour après jour le nombre de cas qui augmente. Donc la peur se fait déjà ressentir. Maintenant, concernant le contrôle au niveau des universités, ils ont essayé de faire l'effort de nous fournir des masques qu'on porte pour se cacher la bouche et le nez. Et aussi, il y a une note qu'ils ont mis à la disposition des étudiants, c'est-à-dire les règles d'hygiène. Et on a un groupe aussi où les informations sont passées, là où ils demandent à tout étudiant de vraiment prêter attention aux informations et de prendre les choses au sérieux afin d'éviter le risque de contamination. Et jusqu'à présent, on rend grâce à Dieu. Tous les Burkinabés se portent bien. Nous ne sommes pas assez nombreux, nous sommes 22 à Wuhan. Donc, on a les informations des uns et des autres et ça va. Au sein de notre université, avec les autres étudiants internationaux, ça va. Je pense que chacun aussi est un peu en collaboration avec ses compatriotes et aussi les membres de l'ambassade, ce qui est le cas également pour les Burkinabés. L'ambassade nous a contactés pour nous adresser leurs mots d'encouragement, leur soutien et s'enquérir également de nos nouvelles. Donc, dans ce sens-là, on pense que ça va.
Joint à Wuhan même, en Chine, l'étudiant africain Daniel Zogona.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.